Vous écoutez
RMC.
RMC.
La une des grandes gueules du sport.
J'ai envie de rentrer chez moi. Libérez-moi. J'en peux plus d'être ici.
Ah oui. 11 célibataires coupés du monde.
Un enfant issu du club comme moi, c'est sûr, ça fait très mal au cœur.
Bon, maintenant je suis terminé. J'en ai marre.
Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros.
Fais-moi sortir de là. Que quelqu'un me fasse sortir de là.
On n'en parle pas trop, mais oui, voilà, après c'est des choix, faut les respecter.
Dans 9 semaines, ils ne seront plus que deux.
Je me laisserai pas faire.
Je suis déçu, je suis énervé, je suis fatigué.
Voilà, là, c'est terminé. Libéré,
désormais. Quelle grande voix, Marion, bravo.
Avec ma fille, à 3 ans et demi, la Reine des Neiges. Tu vas t'assurer avec les bien dans la tête.
Eh oui, c'est une émission, on s'intéresse aussi aux enfants en passant la Reine des Neiges. Peut-être que ça va leur donner envie d'écouter les grandes gueules du sport. Ce 4 octobre 2024 est-il un tournant dans l'histoire du football? Hier, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu son verdict dans l'affaire Lassana Diarra contre la FIFA. Après 10 ans de procédure, de bataille judiciaire, elle estime que certaines règles de la FIFA encadrant les transferts de joueurs entre les clubs étaient contraires aux droits de l'Union européenne et de nature à entraver la liberté délivrée, la libre circulation des footballeurs professionnels. Aujourd'hui, un joueur, vous le savez, ne peut rompre unilatéralement son contrat de travail sans donner une contrepartie financière. Alors si les règles de la FIFA sont réellement remises en cause, les joueurs auront-ils à l'avenir la possibilité de quitter leur club à n'importe quel moment? C'est évidemment la question qu'on a envie de se poser aujourd'hui. L'impact, en tout cas, sur le marché des transferts serait énorme. L'affaire Lassana Diarra, est-ce vraiment une révolution? On va se poser la question, notamment dans quelques instants, avec maître Tatiana Vassine, avocate en droit du sport. Bonjour maître.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons besoin de vos lumières, évidemment, pour bien comprendre ce dossier et pour bien le faire comprendre à nos auditeurs. Juste avant, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Nicolas Paolorsi. Bonjour Nicolas.
Salut les GG, salut à tous.
Salut.
Pour commencer ce dossier, peux-tu nous résumer cette affaire entre Lassana Diarra et la FIFA?
Oui, alors c'était il y a 10 ans, on est en 2014, à l'époque Lassana Diarra joue en Russie au Lokomotiv Moscou, il lui reste 3 ans de contrat et son club trouve qu'il est moins bon, le Lokomotiv est contrarié par ses performances, il veut baisser son salaire, sauf que Diarra estime lui que cette décision est injustifiée, du coup il demande à partir pour un club belge à Charleroi. Moscou décide dans la foulée de rompre le contrat du milieu défensif, jugeant qu'il a cessé de l'honorer sans juste cause. Les Russes ont même réclamé 20 millions d'euros à Diarra pour préjudice subi en s'appuyant sur des textes de la FIFA. Alors je vous donne juste la loi de la FIFA, j'ouvre les guillemets, c'est ce que tu disais JC, ainsi un joueur rompt son contrat de manière unilatérale et sans juste cause, celui-ci doit verser une indemnité correspondant à sa rémunération et ses avantages jusqu'au terme de son contrat. Moscou était même en droit de demander de l'argent à l'époque au Sporting de Charleroi, ce qui a finalement découragé les Belges d'engager Lassana Diarra. Le joueur a donc saisi la justice belge et puis la Cour de justice européenne, et en fait la question qui se pose c'est est-ce que les règles de la FIFA en matière de transfert sont compatibles avec la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne. Le verdict a donc été rendu. La FIFA dit de son côté que ça n'impactera pas directement les transferts, mais c'est pas aussi sûr que ça.
Merci beaucoup Nicolas Paolorsi pour ces précisions. Maître Tatiana Vassine, avocate en droit du sport, première question déjà pour vous à la lecture de ce dossier, de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est, selon vous, une vraie révolution pour les footballeurs? Ce qui s'est passé hier et la décision de justice qui a été rendue?
Je ne parlerai pas à ce stade de révolution. Par contre, on peut parler de tournant, voire de virage, peut-être même de camouflet ou de carton rouge pour la FIFA, parce qu'on a clairement une invalidation de certaines dispositions du règlement du transfert et du statut du joueur par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ce n'est pas une décision qui est anodine.
L'affaire Larry Bosman, rendue il y a plus de 20 ans, comme ça, était passé au départ un peu inaperçu. Il a complètement révolutionné la façon de fonctionner du football. Est-ce qu'on pourrait avoir le même genre de conséquences avec ce nouvel arrêt?
Oui, alors l'arrêt Bosman, ça reste un arrêt phare du droit du sport. Donc je ne sais pas à ce stade si on aura des effets qui seront similaires. Mais en tout cas, on va avoir des effets qui vont être très concrets dans les semaines, les mois, voire les années à venir. Ça, c'est
mais
une certitude.
Mais les conséquences sont immédiates ou non?
Alors, les conséquences sont immédiates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une position de la Cour de justice de l'Union européenne qui nous dit que certaines règles sont, selon elle, illégales. Maintenant, la question, il y a deux questions à se poser. C'est que va faire la FIFA? Vraisemblablement, elle va modifier sa réglementation. Et que vont faire les autres joueurs qui étaient potentiellement dans la même situation que Lassana Diarra? Puisque je rappelle que Lassana Diarra, ce qu'il a reproché à la FIFA et à la fédération belge, c'est d'avoir commis une faute qui lui a causé un préjudice, et donc il a demandé réparation pour le fait d'avoir été entravé dans sa liberté de travailler. Donc il va se poser la question de savoir, est-ce qu'on aura un Lassana Diarra, donc c'est le premier, ou est-ce qu'il va y en avoir d'autres qui vont suivre aussi?
On voit beaucoup de choses traîner sur les réseaux sociaux et c'est aussi pour ça, et aussi dans des papiers avec des erreurs, et c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler dans cette émission, et vous allez me donner votre point de vue, les GG, dans quelques instants. Lassana Diarra reproche à son club, et on l'a entendu avec Nicolas Paolorsi, son club a voulu changer un peu la nature de son contrat. Donc c'est pour ça qu'il a voulu partir. Question toute bête.
En gros, ils ont voulu baisser son salaire de manière drastique.
Et lui, il dit, on baisse mon contrat et c'est pas prévu, donc je veux partir. Est-ce qu'aujourd'hui, un joueur pourrait décider, peu importe la raison, de casser son contrat avec ce qui a été rendu hier et de partir? Ou ça, c'est inenvisageable.
Sans avoir alors, bien sûr. Voilà. Alors, il peut partir, mais à ses risques et périls. C'est la notion de juste cause. Et ça, c'est pas une notion qui est remise en question par cette décision. Comme vous l'avez justement dit, un contrat de joueur, c'est un contrat à durée déterminée. C'est le principe de stabilité contractuelle qui existe au niveau de la FIFA. Le principe, c'est qu'on ne rompt pas un contrat, qu'on soit joueur ou qu'on soit club, avant le terme du contrat. Par contre, si on a une juste cause, c'est le vocable de la FIFA, si on a une juste cause pour rompre son contrat, mais juste cause, on peut le faire.
Oui. Donc, ça c'est la grande question.
Mais bien sûr, c'est ça en fait le problème. C'est-à-dire que c'est un vrai problème parce que, par exemple, moi quand j'ai un joueur qui vient me voir et qui me dit, il y a un certain nombre de manquements qui sont commis par le club. Il va falloir analyser. On va pas dire immédiatement c'est une juste cause ou pas. C'est la FIFA qui va déterminer si c'est une juste cause. Donc c'est de l'appréciation au cas par cas. C'est-à-dire que quand on se trouve dans cette situation,
parole
contre parole et preuve contre preuve et appréciation de la FIFA qui est l'instance fêtière qui va décider si c'est une juste cause ou pas. Et le joueur est placé dans une situation d'incertitude parce que même si c'est une juste cause, même s'il y a des manquements qui sont imputés au club, on n'est pas à l'abri de ce que la FIFA dise, non en fait, c'est pas une juste cause. Et donc le joueur va assumer la responsabilité, donc les indemnisations financières, et c'est ce que nous dit la Cour de justice de l'Union européenne, c'est que non seulement il y a une problématique d'indemnisation financière, mais c'est pas uniquement une problématique qui pèse sur le joueur, c'est que ça pèse sur son potentiel nouvel employeur, qui est solidaire, automatiquement solidaire. Donc, aucun club.
Le vrai combat maintenant, c'est d'éclaircir cette nébuleuse et de dire en quoi et à quel moment c'est une juste cause.
Mais c'est quand il y a une faute grave du club, à mon avis. Mais
par exemple, c'est l'équivalent de la faute grave.
Si on te met au loft, dans un loft, par exemple, les joueurs de Paris Saint-Germain qui ont été mis dans un loft.
Marseille,
Lyon. Est-ce que ça pourrait être invoqué et la FIFA décide que ça, c'est une juste cause. Ça pourrait être considéré comme une juste cause.
Oui, alors il y a déjà des décisions qui ont été rendues. Je pense qu'on peut partir du principe que le loft, en tant que tel, c'est illégal.
Mais tout le monde
le fait. Par principe, c'est illégal. Ça, c'est un autre sujet, effectivement. Mais il y a beaucoup de clubs qui le font.
Illégal
Parce que le joueur, quel qu'il soit, le sportif, doit être placé dans une situation identique aux autres. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il peut être inscrit automatiquement sur la feuille de match. Ce n'est pas possible. Il y a des restrictions sportives qui font que ça n'est pas envisageable. En revanche, il doit être placé dans les mêmes conditions que les autres joueurs. Alors, il y a des exceptions qui existent, notamment s'il y a des raisons spécifiques, des raisons sportives de gestion de l'effectif, qui sont prévues aussi bien par la charte du football professionnel qu'au niveau de la FIFA. Mais c'est l'exception, en fait, ce principe-là. Et ce n'est pas dans la volonté de soustraire un accord du joueur en lui disant « on ne veut plus de toi et si tu n'acceptes pas d'être transféré dans un club qui ne te plaît pas, on te met en loft jusqu'à ce que tu craques ». Ça, c'est purement et simplement illégal. Mais il peut y avoir des exceptions qui justifient que, de manière temporaire, il puisse y avoir, pour une gestion des effectifs, un changement dans les groupes d'entraînement des joueurs.
Il va y avoir des alinéas dans tous les contrats. Ça va être un travail dingue pour vous. avocat, par exemple, un jeune joueur du Paris Saint-Germain qui a un potentiel énorme en devenir va signer son premier contrat pro. Et ce qu'il peut dire, j'exige de jouer tant de matchs dans une saison en équipe première.
Mais non.
On ne pourra pas le mettre dans un contrat.
Non. On est sur le principe d'égalité. Par contre, si j'ai un joueur qui se retrouve placé en équipe réserve parce que le club n'en veut plus et qui se retrouve, et en plus, on connaît le principe, vous êtes placé en équipe réserve, vous perdez du temps de jeu, vous perdez de la performance, vous perdez de la visibilité. C'est le cercle vicieux, en fait. Ça, c'est interdit. Par contre, le fait qu'il fasse pas un nombre minimum de matchs, ça, malheureusement, c'est le pouvoir de direction du club et d'entraîneur.
Pas être invoqué comme juste cause, c'est ça, comme vous avez dit tout à l'heure,
Le fait qu'il soit pas sur la feuille de match, non, ça serait pas possible.
C'est du domaine sportif.
Oui. C'est du sportif.
Ok, moi j'aimerais prendre un exemple très concret qui parle à tout le monde. Kylian Mbappé l'été dernier. Kylian Mbappé l'été dernier, il ne veut pas prolonger son contrat, donc le Paris Saint-Germain décide de qu'il ne fasse pas la tournée asiatique et de le mettre dans le loft. Et que s'il prolonge son contrat, là, dans ces cas-là, il peut réintégrer l'équipe. On se souvient de tout le bazar et tout le pataquès que ça avait causé. Est-ce qu'à ce moment-là, et c'est ce que nous dit un petit peu cette décision de justice de l'Union européenne, est-ce que ça veut dire que Kylian Mbappé aurait pu à ce moment-là dire « Bon, mon contrat n'est pas respecté, donc ce que je fais, c'est que je pars au Real Madrid et je ne vous dois rien. »
Normalement, oui.
Parce que ça, ça change tout. Si c'est
et
ça,
je négocie ma prime à la signature et je négocie mon salaire XXL et le joueur prend encore plus d'argent.
Et le Real n'a rien à payer et Kylian ne doit rien au Paris Saint-Germain.
Est-ce que c'est concrètement ce qui s'est arrivé quand même?
Alors, il faut distinguer, on parle de la France là en l'occurrence, mais il faut distinguer aussi tout ce qui résulte de l'article 507 de mémoire de la Charte du football professionnel qui parle de d'intersaison et de changement de groupe temporaire. Si on est dans ce cadre-là, on est dans les clous de la charte du football professionnel. Donc, il n'y aura pas d'illégalité. En revanche, si on est sur une mise à l'écart, mais c'est comme en droit du travail, en fait. Hein. Vous avez un salarié qui est dans une entreprise et qui se retrouve au placard parce qu'on ne lui donne plus de travail, parce qu'il ne vient plus aux réunions, parce que quand il y a des séminaires, il n'est pas invité. C'est illégal et il peut justifier un manquement de son employeur qui mène jusqu'à la rupture du contrat. Mais en fait, il y a pas que ça.
C'est ça le problème.
Mais oui, mais il y a pas que ça dans un si on vous demande. Alors, vous allez me dire peut-être que ça peut convenir très bien à certaines personnes. Vous arrivez dans une entreprise, ouais. Vous faites rien, vous êtes payé, vous êtes content.
Denis, il adore ça, par
exemple. Je ne juge pas. Je ne juge pas. Mais l'obligation de l'employeur, c'est de vous payer. C'est une de ses obligations essentielles, et ça vaut pour un club de foot. Mais aussi de vous donner du travail, et a fortiori dans des domaines spécifiques comme le sport, où quand vous ne travaillez pas, vous perdez de la valeur et vous risquez de porter atteinte à votre carrière sportive.
On a l'impression qu'avec cette décision de justice, le pouvoir change un peu de camp et un peu plus dans le camp des joueurs. Explique-nous comment ça se passe en NBA, Fred, et après je lance Marion sur le sujet.
En NBA, c'est super simple. Sur les transferts, en fait, on est associé à un contrat. C'est-à-dire quand on est transféré, c'est notre contrat qui est transféré. C'est-à-dire qu'on peut du jour au lendemain et même de l'heure à l'heure suivante être transféré dans une autre franchise sans que le joueur ait le droit de dire quoi que ce soit.
Tu quittes ta région, tu quittes ta ville pour aller au bout du pays.
Tu sais qu'il est déjà arrivé qu'un joueur allait rentrer sur le terrain.
Coupé, c'est ça?
Alors non, transféré. On est transféré. Coupé, c'est quand on paye ton contrat même si tu travailles pas. Ah ouais. Mais quand t'es transféré, c'est-à-dire qu'en gros tu peux arriver pour jouer ton match, on te prévient non, tu n'appartiens plus à cette équipe, tu rentres au vestiaire, tu te changes et tu pars sur l'autre équipe.
Le club fait ce qu'il veut.
Le club fait absolument ce qu'il veut. Alors il y a certains joueurs qui ont du poids et qui ont le droit de demander ces transferts parce que c'est compliqué de garder un joueur contre sa volonté. Mais en réalité, les vrais patrons en NBA, c'est les propriétaires de franchise qui décident de n'importe quoi.
C'est une ligue fermée, donc ça n'a rien à voir.
Quand tu es transféré, tu ne perds pas un centime de ton contrat. C'est-à-dire qu'en gros, ton contrat te suit. Et ça, c'est d'une certaine manière assez intéressant.
Marion Bartoli.
Pour moi, en fait, j'ai une lecture différente de la manière dont ça a été annoncé. On a l'impression que c'est une révolution dans le foot, positive. Alors qu'en fait, je pense que ça va créer encore plus de problèmes juridiques. Et lorsqu'on vous écoute, maître, d'ailleurs, on voit déjà très bien qu'il y a beaucoup de chaos. Et finalement, c'est pas aussi clair que ça, que la FIFA va pouvoir, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, arriver au même but à la fin que ce qui est aujourd'hui, en tout cas, acté en matière légale et de loi. Et j'ai l'impression que l'économie du foot, qui était déjà très orienté sur ceux qui ont le plus d'argent sont capables de recruter les meilleurs joueurs, donc d'aller gagner les plus grandes compétitions, ça va être encore plus mis en avant et encore plus favoriser ce genre de clubs qui sont capables de mettre des grosses masses salariales, qui sont capables de donner des grosses primes à la signature directement aux joueurs. Et que déjà que l'économie du foot était extrêmement instable, là je trouve que ça devient une cacophonie incompréhensible. Donc je ne suis vraiment pas certaine que ça soit progressiste. Après, dans le cas de Hassana Diarra, que pour lui, dans son cas personnel, ça soit une décision de justice qui soit en sa faveur, je peux le comprendre. Mais de passer de ça à quelque chose de totalement global, qui vienne du coup être une nouvelle manière de régir le monde économique du football, je trouve ça extrêmement
Pour toi,
compliqué.
Ça s'applique à Hassana Diarra, mais ça s'appliquera pas partout. Juste avant, une observation, maître, sur ce que vient de dire Marion, est-ce que ça va complexifier encore plus les choses alors que ça se veut plutôt progressiste?
Complexifier, moi j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une forme de rééquilibrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se trouvait dans une situation où un joueur qui voulait rompre son contrat, quand bien même il était dans une juste cause, il était soumis à un aléa important qui l'empêchait d'avoir une sécurité juridique sur le fait que potentiellement il pourrait retrouver un club ou pas. Donc ça forçait aussi les joueurs à se retrouver dans des situations où soit finalement ils rompaient pas les contrats, soit ils acceptaient des accords qui étaient clairement défavorables parce que le club avait la main mise sur eux.
Oui, mais vous comprenez, maître, que lorsque vous construisez un effectif, quand vous êtes le PSG, quand vous êtes City, quand vous êtes les plus gros clubs, vous avez besoin d'avoir un effectif qui va être le même pendant 3 ou 5 ans. Sinon, vous ne pouvez pas construire l'équipe, vous pouvez pas construire le projet.
Oui, c'est une juste cause.
Exactement. Oui, mais
c'est pas au bon vouloir du joueur, en fait, c'est différent.
Le fait de la rupture en disant le contrat, un joueur peut le rompre à n'importe quel moment, donc changer d'effectif et partir ailleurs. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dirigeant d'un club, vous êtes obligé d'avoir une certaine stabilité en votre effectif pour construire quelque chose, même pour que les supporters s'identifient à votre équipe.
Oui, mais donc, si un joueur voulait quitter son club, il ne pouvait jamais le faire, alors qu'à un moment donné...
Il peut le faire, mais à ses risques et périls. Et en fait, ce point-là, à mon sens, n'est pas remis en question dans la mesure où le joueur ne peut pas partir quand il veut. Il peut partir
loin.
Uniquement s'il y a l'équivalent d'une faute grave.
Ouais, mais pas loin, mais la faute grave, on peut la justifier, tu peux la trouver, la faute grave.
Oui. Le club, si le joueur commettait une faute grave, il pouvait s'en séparer. Et maintenant, si le club commet une faute grave envers son joueur, il peut partir aussi. Donc en fait, ça rééquilibre.
Il y a un rééquilibrage. Il y a un rééquilibrage,
Il y a un rééquilibrage. Denis, je suis d'accord. Moi, quand j'ai entendu la nouvelle, j'étais assez surpris et je trouvais que c'était un peu catastrophique dans le sens où ça va être la porte ouverte à n'importe quoi.
Exactement.
Et en fait, en vous entendant, je suis plutôt rassuré parce que je me dis qu'un joueur n'a aucun intérêt de rentrer dans un procès avec un club. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, ça va enrayer sa carrière. Et je me dis quand même qu'il va y avoir une vraie réflexion du joueur avant d'avoir une démarche de rupture, enfin une démarche par rapport à une rupture.
Donc tu es en train de nous dire que ça changera rien.
Je dis pas que ça va être. Je pense que ça va être du cas par cas et que ça va être beaucoup plus complexe que ça et que on va pas avoir du jour au lendemain des joueurs qui vont
dire je veux m'en aller.
Denis, tu as pris l'exemple de Mbappé au PSG. Prends l'exemple d'Ousmane Dembélé sur le déplacement Arsenal. D'accord.
Oui,
on a déjà dans ce cas très précis deux versions différentes. Donc on a la version du coach en disant voilà, le joueur m'a pas respecté. Moi, là, j'ai une institution à respecter. L'institution est dessus de tout. Je le mets à l'écart. Et on a le frère de Dembélé qui sort une vidéo en disant non, c'est pas ça. C'est mon frère, il était blessé, donc il fait pas le déplacement parce qu'il est blessé. Vous répétez ça pendant 2-3 semaines avec Dembélé qui continue à avoir un mauvais comportement, Luis Enrique qui va au bras de fer, qui considère qu'il l'écarte, et on va se retrouver déjà dans ce système-là. Oh. Qu'est-ce qu'il fait Dembélé? Il part.
Dembélé, il dit bah je romps mon contrat et je veux bien partir.
Alors que PSG dépenser combien
pour la faire. Il faut qu'il ait raison.
Le
principe, c'est qu'il part.
Mais s'il a pas raison,
il notifie une rupture et il motive la rupture.
Oui, mais c'est la rupture après, elle est condamnée. Enfin, pas contre lui.
C'est une prise de risque quand on rompt un contrat. C'est pour ça qu'il faut le faire avec des avocats.
C'est clair que ça.
C'est pour ça que je suis rassuré. Je pense qu'il n'y aura pas autant de joueurs qui vont.
Donc en fait, ça va rien changer.
Si, ça va changer quelque chose pour votre profession. Avocat de sport, je pense que vous allez avoir un boulot incroyable dans les semaines à venir.
Mais oui, mais non, mais en fait,
vous allez pouvoir facturer des heures.
C'est pas beau, ça, d'attaquer sur l'argent.
En fait, c'est ce qu'on fait déjà. Moi, quand j'ai un joueur qui vient me voir et qui me dit je suis dans une situation contractuelle où mon club ne respecte pas son contrat, je vais pas lui dire vas-y, tu romps ton contrat, c'est terminé. Il y a une analyse qui se faisait. La différence qui existe, c'est que avant l'analyse qu'on faisait, c'était dire quand bien même il y a une juste cause, attention, parce que oui, le club ne respecte pas son contrat. Qu'est-ce que va dire la FIFA? Est-ce qu'elle va bloquer ton CIT, ton certificat international de transfert? Est-ce qu'elle va t'empêcher de retrouver un autre club? Parce que si jamais il y a une condamnation, l'autre club sera engagé aussi dans la condamnation. Et c'est un principe de solidarité automatique. Hein. Mmh. C'est-à-dire que quand bien même le club n'a rien à voir, le nouveau club n'a rien à voir avec le motif de la rupture, il peut être condamné à verser une indemnité qui est due par le joueur.
Et aussi être pénalisé au niveau de ses transferts sur le mercato pour les mercatos à venir. Il y a des sanctions sportives aussi.
Au cas où la sanction financière ne soit pas suffisamment importante.
Oui. Donc l'affaire Diarra, est-ce qu'il va toucher des indemnités, lui ? Ou pas.
Il demande à avoir réparation du préjudice subi parce qu'il y a une faute et la faute a été reconnue. Donc là, il faut que la cour d'appel de Mons, qui est en Belgique, puisse se prononcer là-dessus. Mais potentiellement, il y a d'autres joueurs qui se sont retrouvés dans des situations où ils ont rompu le contrat et ils ont été empêchés de retrouver du travail parce que c'est ça aussi. On a des joueurs qui ne retrouvent pas de travail. Alors après, qui paye? Qui paye? Parce que ils ont commis une faute et ils ont causé un préjudice. C'est la mécanique de droit classique. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, on commet une faute. On est condamné à réparer un préjudice, on paye. Voilà, c'est le principe de base.
Comme Paul Pogba actuellement, on en a parlé avec son affaire de dopage.
Exactement, exactement. Alors, c'est un
autre sujet. Mais je veux dire, il y a eu une faute et il est obligé de la payer. Mais si je résume ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, avant, les joueurs n'avaient pas d'autre moyen que de rester dans leur club parce que sinon ils se mettaient en faute et que s'ils voulaient vraiment partir, fallait payer leur contrat et eux l'assumaient tout seuls, c'était compliqué. Et que le club qui voulait bien les accueillir, ils pouvaient avoir des sanctions financières et des sanctions sportives.
Il y avait une prise de risque plus importante.
Ça ne se passait jamais.
Aujourd'hui, ils avaient une petite porte de sortie.
Et qu'aujourd'hui, avec ça, le club a peut-être plus le pouvoir.
Est-ce que les clubs qui engagent le joueur ne vont prendre le risque parce que finalement, il peut effectivement partir comme ça, mais ça peut être toqué après.
Mais après, on retombe sur un système de responsabilité classique. C'est-à-dire que s'il est démontré que le nouveau club qui accueille le joueur a participé à la rupture, c'est-à-dire qu'il a incité le club à partir, que là, il va engager sa responsabilité.
Ça fait que complexifier les choses. Merci.
Merci, maître Tatiana Vassine, d'avoir été avec nous, avocate en droit du sport. Peut-être qu'on aura d'autres dossiers et on fera appel à vous.
Avec plaisir.
Merci en tout cas d'être venu nous expliquer cette affaire.
Par exemple, des grandes gueules du sport, je peux venir vous voir.
Il y a une juste cause.
J'arriverai très facilement à trouver une photo. Rassurez-vous.
Il est temps de vivre surtout.